Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Chez Robin Dorsil et Nathalie Barge. Bonsoir, bienvenue à l'édition du mercredi 22 juillet. À la une ce soir.
Au Cameroun, un double attentat terroriste fait au moins une vingtaine de morts dans l'extrême nord.
Violence interethnique dans le Nord Kivu. La société civile appelle les autorités de la RDC à rencontrer les communautés de Rutshuru pour renforcer la cohabitation pacifique.
Lorsqu'il s'agit d'une insécurité qui a fait victime un sujet Hutu, les Hutus pensent que ce sont les Nambe, et lorsqu'il s'agit des Nambe, les autres croient que ce sont les Hutus.
Omar Kavota, directeur du Centre d'études pour la promotion de la paix.
Burkina Faso, un ancien proche de Blaise Compaoré appelle à la dissolution du régiment de sécurité présidentielle.
Barack Obama se rend cette semaine sur la terre natale de son père.
Kenya se trouve au milieu d'une bataille avec Al-Shabaab, l'organisation terroriste. Les États-Unis ont un intérêt en aidant Kenya à faire face.
On écoutera l'ambassadeur américain au Kenya.
La dette grecque, les banques de nouveau ouvertes, alors que le Parlement planche sur les nouvelles réformes exigées par les bailleurs de fonds.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Cameroun, au moins 20 morts et une vingtaine de blessés. Tel est le bilan provisoire du double attentat suicide survenu aujourd'hui dans la ville de Maroua, capitale de la région de l'extrême nord. La première explosion a eu lieu au marché central de la ville, faisant au moins 13 morts. Les soupçons s'orientent vers le groupe militant Boko Haram, déjà accusé d'un autre attentat suicide en territoire camerounais ce mois-ci.
La force de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM, a démenti ce mercredi avoir tué des civils, comme l'affirment des témoins au cours d'une opération menée la veille dans le sud somalien contre les insurgés islamistes d'Al-Shabaab. Les précisions d'Idrissa Seloudia.
L'AMISOM dénonce catégoriquement ces accusations, s'est-elle défendue dans un communiqué, ajoutant avoir tué 5 combattants Shabab et notamment Mohamed Dahir, l'un de leurs leaders. Selon l'AFP, des habitants de la ville portuaire de Merka, dans le sud, ont affirmé que des soldats de l'AMISOM avaient tué au moins 8 civils mardi après avoir ouvert le feu en réponse au jet d'une grenade par les insurgés. Il y a eu une attaque à la grenade qui visait le convoi des soldats. Ils ont ouvert le feu au hasard, tuant plusieurs civils, y compris des enfants et une femme, a affirmé Abdirahman Mohamed, un habitant de la ville. Ibrahim Adam, un autre témoin, a assuré avoir vu les troupes attaquer une maison après l'explosion de la grenade. Deux enfants et une femme font partie des victimes. Ils ont tiré sur tout ce qui bougeait dans la zone et toutes les victimes étaient des civils, a-t-il expliqué.
Au Burundi, toujours pas d'annonce de résultats après la présidentielle de mardi. Il devrait être connu d'ici vendredi. Le point avec Eric Manirakiza.
C'est Prosper Naogwamiye, le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante CENI, qui l'a annoncé à la VOA aujourd'hui. Aucun chiffre officiel n'a jusqu'ici été publié, mais les tendances communiquées par la CENI à la VOA placent en tête le président Pierre Nkurunziza, suivi d'Agathon Rwasa. Le président Pierre Nkurunziza, qui briguait un troisième mandat controversé, est assuré d'être élu au premier tour. L'opposition, la société civile et l'influente Église catholique estiment qu'un troisième mandat de M. Nkurunziza viole la Constitution et l'accord d'Arusha qui a mis fin à la longue et sanglante guerre civile au Burundi. Par ailleurs, l'Union africaine a annoncé ce mercredi le déploiement de militaires et d'observateurs des droits de l'homme au Burundi. Ce déploiement vise à prévenir une escalade de la violence au Burundi ainsi qu'à faciliter l'aboutissement des efforts de règlement de la grave crise que connaît le pays, précise un communiqué de l'Union africaine.
Au Burkina Faso, déclaration surprise de Marc-Christian Kabore, l'ancien baron du régime de l'ex-président Blaise Compaoré, devenu opposant et l'un des favoris pour l'élection d'octobre, s'est déclaré favorable à la dissolution de la garde présidentielle. Il faut trouver des solutions pour renverser ces hommes et ces matériels dans l'armée régulière, a déclaré le président du Mouvement du Peuple pour le Progrès hier soir. Kabore souhaite avoir une armée républicaine qui soit sous un commandement unique. Considéré comme le bras armé du régime de Blaise Compaoré, cette armée dans l'armée, comme on l'appelle souvent, a récemment provoqué près de 3 semaines de crise politico-militaire au Burkina Faso.
Tunis souhaite se doter d'une nouvelle loi antiterroriste. Le Parlement a entamé aujourd'hui 3 jours de débat pour adopter le nouveau texte dans un contexte de violence revendiquée par le groupe État islamique. Plusieurs versions du projet de loi sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent ont été élaborées ces derniers mois sans être présentées aux députés en séance plénière, faute de consensus. Plusieurs ONG, dont Human Rights Watch et Amnesty International, se sont d'ores et déjà inquiétées des futures mesures, craignant notamment que la loi permette la répression de certains actes qui ne sont pas de nature terroriste.
L'ONG Human Rights Watch a publié aujourd'hui un rapport accablant dénonçant de graves exactions de l'armée sud-soudanaise commises sur les civils entre avril et juin 2015. Le document accuse l'armée sud-soudanaise d'avoir écrasé les civils avec leurs chars et brûlé vifs des villageois. Début juillet, le gouvernement avait annoncé déjà enquêter sur des accusations similaires. Les précisions de Tatiana Mosso.
Le document est intitulé « Ils ont tout brûlé ». Il compile 174 témoignages de victimes recueillis dans l'état de l'unité dans le nord du pays. Des récits d'attaques délibérées contre des civils qui constituent des crimes de guerre, selon Human Rights Watch. L'ONG accuse les troupes sud-soudanaises, principalement des Dinka, d'avoir exécuté sauvagement des civils ciblés selon des critères ethniques, les victimes étant majoritairement des Nuer. Les auteurs du rapport font également état de 63 cas de viol, mais estiment qu'il ne s'agirait que d'une partie du nombre total. Le viol, souvent commis en public et qui serait devenu une arme banale selon des témoignages. Les forces rebelles sont elles aussi accusées d'avoir commis des atrocités et, comme le gouvernement, d'avoir recruté des enfants soldats. L'armée n'a pas souhaité répondre aux accusations de l'Organisation de défense des droits de l'homme.
Les rebelles du Soudan du Sud ont annoncé aujourd'hui s'être séparés d'un de leurs plus importants commandants militaires. Le chef des rebelles, Riek Machar, a remplacé l'influent seigneur de guerre Peter Gadiet, qui fait l'objet de sanctions des Nations Unies. Les rebelles parlent de remaniement simplement ordinaire. Peter Gadiet, qui opère depuis des dizaines d'années dans l'état d'unité, a été remplacé par le général James Kwang Chul, un autre militaire également sur la liste noire des Nations Unies et du Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, au moins 19 personnes ont été tuées et 35 blessées dans un attentat suicide survenu sur un marché du nord du pays. L'objectif principal était apparemment un groupe de militaires, mais la majorité des victimes sont des civils innocents. Personne n'a encore revendiqué la responsabilité de cet attentat, dont le bilan pourrait augmenter. La région connaît de fréquents affrontements entre les talibans et les forces de sécurité.
L'intensification des combats au Yémen accroît le nombre de victimes civiles, rappelle l'ONU. Un rapport du HCR indique que plus de 3600 personnes, près de la moitié étant des civils, ont été tuées depuis le début, le 26 mars, des bombardements aériens de la coalition saoudienne contre les rebelles houthis soutenus par l'Iran.
Le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, est en visite aujourd'hui en Arabie Saoudite dans le cadre d'une tournée régionale visant à rassurer les alliés des États-Unis concernant l'accord sur le programme nucléaire iranien. Avant de se rendre en Arabie Saoudite, M. Carter a visité Israël et la Jordanie.
En Turquie, les autorités ont temporairement bloqué tout accès au site de Twitter afin d'empêcher la distribution de photos relatives à l'attentat à la bombe de lundi qui a fait au moins 30 morts près de la frontière syrienne. La mesure a été par la suite annulée après que le réseau social ait enlevé des messages jugés malicieux conformément à l'ordre d'un tribunal, a déclaré un responsable du gouvernement à Ankara. Le kamikaze Sey Abdurrahman Alagoz est un jeune Turc de 20 ans. La cible de l'attaque était un groupe qui se préparait à se rendre en Syrie pour participer à la reconstruction de la ville de Kobané.
En Grèce, les banques ont fonctionné aujourd'hui pour la première fois en 3 semaines, mais le contrôle des capitaux imposé par le gouvernement d'Alexis Tsipras reste en vigueur. Le Premier ministre grec a rencontré les responsables du secteur bancaire alors que le Parlement tenait une réunion d'urgence à Athènes sur une deuxième série de réformes dont dépend le versement de nouveaux fonds des bailleurs européens. Alexis Tsipras a promis de tout faire pour que les citoyens les plus vulnérables en Grèce ne soient pas affectés par les nouvelles mesures. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Claire Morin-Gibourg.
Le gouvernement camerounais vient d'annoncer le recrutement durant cette année de 1500 diplômés en vue d'étoffer les effectifs de la fonction publique dans les domaines aussi variés que la santé publique, les mines, le cadastre, les affaires sociales, l'éducation physique et sportive, ainsi que la documentation, le génie civil, les industries animales, l'agriculture et l'architecture. Premier employeur du Cameroun, la fonction publique compte plus de 270 000 agents éparpillés sur l'ensemble du territoire national. Le Burkina Faso va bénéficier d'un prêt de 15 milliards de francs CFA de la Banque européenne d'investissement pour le financement de la construction de la centrale photovoltaïque de Zaktouli à la périphérie ouest de Ouagadougou. Cette centrale est considérée comme l'une des plus grandes centrales solaires photovoltaïques d'Afrique subsaharienne. Elle va permettre au Burkina Faso, pays enclavé, de réduire sa dépendance énergétique. Les revenus pétroliers de l'Algérie ont baissé de 43,71% durant le premier semestre de 2015 en raison de la chute des prix du brut, entraînant un creusement du déficit commercial. C'est ce qu'ont annoncé les douanes algériennes. Les hydrocarbures rapportent à l'Algérie plus de 95% de ses recettes extérieures et contribuent pour 60% au budget de l'État.
Merci beaucoup Claire Morin-Gibourg pour la Minute Éco.
Le monde aujourd'hui, c'est aussi les sports. Nicolas Pinault est en studio avec nous. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Alors, Didier Drogba ira-t-il à Montréal ?
L'attaquant ivoirien serait le choix parfait pour aider l'Impact de Montréal à poursuivre son ascension dans le championnat nord-américain de football. C'est ce qu'a jugé hier son ex-entraîneur à Chelsea, José Mourinho. Le buteur de 37 ans avait annoncé fin mai, après avoir aidé les Blues à remporter la Premier League, qu'il quitterait Chelsea à la fin de la saison et qu'il entendait jouer encore un an au moins dans un autre club avant de prendre sa retraite sportive. Alors que le club anglais a établi son camp d'été à Montréal depuis mercredi dernier, les rumeurs vont bon train sur l'éventuel recrutement de Drogba par le club local, l'Impact, qui évolue en MLS depuis 2011.
Autre club anglais en tournée en Amérique du Nord, Manchester United.
Oui, les Mancuniens ont battu la nuit dernière à San José le club de San José Earthquakes 3-1. C'était en match amical de l'International Champion Cup.
Parlons maintenant de la Copa Libertadores de América.
Le club argentin de River Plate s'est qualifié pour sa première finale en 19 ans grâce à son match nul un partout contre les Paraguayens de Guarani. C'était en demi-finale retour à Asunción. À l'aller, l'équipe de Buenos Aires s'était imposée 2-0 à domicile. Le club argentin affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale retour qui se joue la nuit prochaine entre le club brésilien de l'Internacional de Porto Alegre et les Mexicains des Tigres de Monterrey.
Championnat malien de football, les dernières nouvelles.
Le Stade malien, toujours leader, a battu 2-0 l'Asso Missi. Et puis le 11 créateur n'a pas fait de détails. Victoire 4-0 contre le Mamaïra de Kati. Et puis à suivre ce mercredi, l'AS Sabana de Mopti contre le CS Douguo Lofila.
Enfin, cyclisme, le Tour de France.
La première arrivée au sommet dans les Alpes a consacré l'Allemand Simon Geschke, vainqueur de cette 17e étape à Pralou, où le Britannique Chris Froome, en jaune, conserve son maillot. La descente d'Alos redoutée a tourné mal pour l'Espagnol Alberto Contador qui a chuté et perdu plus de 2 minutes sur ses principaux adversaires.
Merci Nicolas Pinault.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Cher Romain Dorcil et Nathalie Barge, en votre compagnie, place maintenant au dossier du jour. Première escale, le Burundi.
Et oui, au lendemain de l'élection présidentielle, le décompte des suffrages se poursuit. D'autre part, le ministre burundais des Affaires étrangères, Alain Niamitwe, a dit que Bujumbura attend la réaction officielle du Rwanda aux allégations selon lesquelles ce pays abriterait certains des présumés putschistes ayant tenté de renverser le président Pierre Nkurunziza le 13 mai dernier. Au micro d'Éric Manirakiza, le ministre Niamitwe s'abstient d'accuser directement le Rwanda, mais dit se baser sur des informations fournies par des rebelles appréhendés lors des attaques dans la province de Kayanza, dans le nord du Burundi.
Les présumés putschistes du 13 mai, selon des informations persistantes, se seraient retrouvés, pour certains d'entre eux en tout cas, sur le territoire rwandais. Et nous avons eu l'occasion de communiquer cette information aux autorités rwandaises par les canaux appropriés. Comme nous avons eu l'occasion de le dire, il s'agit d'une information qui ne peut pas nous rassurer, qui ne peut pas nous laisser non plus indifférents. Et c'est pour cette raison que nous avions demandé aux autorités rwandaises, toujours à travers les canaux diplomatiques appropriés, de faire tout ce qui est en leur pouvoir afin non seulement d'empêcher les agissements qui iraient dans le sens de perturber la paix et la sécurité au Burundi à partir de leur territoire, mais également de faire en sorte que, si justice demandée, ces personnes soient remises aux autorités judiciaires du Burundi. Et nous estimons que ce n'est pas cet incident ni celui de Kabarole Tibito qui doit bénéficier d'un peu plus d'investigation, mais en tout cas, selon certaines informations, ces jeunes gens provenaient du territoire rwandais.
Et quelle a été la réponse de la partie rwandaise à votre demande?
Nous attendons la réaction officielle aussi, mais c'est vrai que nous avons eu des inquiétudes, nous ne pouvons pas le cacher, mais nous allons encore travailler davantage avec eux sur la manière la plus appropriée de régler toutes ces questions. Mais de toute façon, nous attendons le retour.
Vous décidez de le dire tout haut aujourd'hui, est-ce dire que la voie diplomatique a échoué?
Non, pas du tout. Elle n'a pas échoué, c'est pour couper court justement aux rumeurs et à toutes sortes d'informations qui ont circulé sans cadrer les choses. Ici, c'est aujourd'hui qu'on le dit, ce n'est pas parce que nous n'avions pas eu ces informations auparavant.
Monsieur le ministre, vous parlez d'informations, mais quels sont les éléments qui justifient les inquiétudes du régime de Bujumbura?
Non, il n'est pas question d'éléments qui justifieraient l'inquiétude du régime de Bujumbura. Dit ainsi, ce que nous disons, c'est que quand vous avez des gens qui disent et qui ont dit même à la presse, certains de vos confrères ont pu interroger des jeunes gens qui avaient été arrêtés dans le cadre de l'attaque de Kabarole et de Cibitoke. Ces jeunes gens, ils ont concordé à dire qu'ils venaient de l'autre côté de la frontière.
Monsieur le ministre, vous dites que vous basez sur les informations fournies par certaines personnes arrêtées. Est-ce que vous avez pu vérifier la véracité de ces informations pour justement vous inquiéter?
Quand on a ces informations, on ne peut pas faire comme si elles n'existent pas. Maintenant, on doit travailler ensemble pour vérifier la véracité de ces propos.
C'était le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Alain Niamitwe. Par ailleurs, la VOA a tenté de joindre les autorités rwandaises à ce sujet, mais sans succès jusqu'ici.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur l'après-présidentielle au Burundi. Deux jours après ce scrutin controversé, quelle perspective après le passage en force de Pierre Nkurunziza? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
République démocratique du Congo, la société civile du Nord Kivu a lancé une nouvelle alerte sur la résurgence des conflits intercommunautaires en territoire de Rutshuru. Dans un communiqué, le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme en RDC, CEPADO, indique que les violences interethniques à Kabati, la nuit de dimanche à lundi, ont fait 2 morts et 4 blessés. L'ONG demande au gouverneur Julien Paluku et au ministre du Développement rural Eugène Serfouli d'aller sur le terrain pour renforcer la cohabitation pacifique, conformément aux engagements pris à Kinshasa le mois dernier. Nous avons joint à Goma le coordonnateur du CEPADO, Omar Kavota.
par le passé, il y a quelques mois seulement, ce genre de conflit a surgi dans la localité de Nyamilima. Et on a déploré des morts et des blessés au sein des deux communautés. Et pas plus tard que la nuit de dimanche à lundi dernier, il y a eu encore ces actes d'intolérance qui ont coûté la vie à 2 personnes et 4 blessés dans les rangs de la communauté Mande.
Est-ce que ces violences intercommunautaires provoquent des déplacements importants de population?
Tout à fait, c'est ce que nous sommes en train de déplorer. Dans la localité de Kabati, au sud de Rutshuru Centre, la communauté Nande fouille la localité parce qu'à ce niveau, cette communauté a déploré la mort de ses deux sujets et 4 blessés graves par machette. Et ça fait que les familles entières craignent pour leur sécurité et elles fouillent ces villages.
Quel est le problème entre ces communautés?
Il s'observe que dans la région, on assiste à un regain de sécurité et le membre de communauté Hutu et Nande s'accuse mutuellement lorsqu'il s'agit d'une sécurité qui a fait victime un sujet Hutu. Les Hutus pensent que ce sont les Nande et lorsqu'il s'agit des Nande, les autres croient que ce sont les Hutus. Et donc des accusations mutuelles, une crise de confiance qui résulte des incidents qui peuvent se produire et qui peuvent être pourtant réglés à l'amiable entre le membre des communautés qui se font confiance.
Est-ce qu'une médiation a été engagée entre ces communautés?
Le mois dernier, il y a eu une retraite qui a regroupé l'ensemble des grands notables de la province du Nord Kivu à Kinshasa. Les notables des communautés se sont parlé, ils se sont engagés à renforcer la cohabitation pacifique entre les communautés. Mais il s'observe que ce qui vient de se passer à Rutshuru défie pratiquement les engagements. Et nous pensons que ces grands notables devaient s'investir davantage avec le concours du pouvoir public en renforcer cette cohésion. Nous avons, à l'occasion de la récente retraite de recommandations, M. Julien Paloukou qui gouvernait la province, et Eugène Serefouli qui est aussi ministre national, qui sont de la communauté Hutu et Nande, avaient été chargés de se rendre ensemble dans le territoire de Rutshuru, parler aux communautés, à leurs communautés respectives. Nous continuons à encourager ces notables à se rendre sur place parce qu'ils n'auront pas encore faim, mais aussi du côté du gouvernement central de la MONUSCO, que se passe sur cette situation de manière à atténuer les tensions.
Maître Omar Kavota, coordonnateur du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme en RDC. Arrivé vendredi au Kenya de Barack Obama, le président américain restera 48 heures sur la terre natale de son père, mais il se contentera de Nairobi. Il ira ensuite en Éthiopie, notamment au siège de l'Union africaine. Pour une analyse, Nicolas Pineau a joint l'ancien ambassadeur américain au Kenya, Marc Bellamy.
Kenya et l'Éthiopie sont des pays assez importants en termes de politique américaine en Afrique. D'abord, les économies dans l'Éthiopie et au Kenya ont enregistré une croissance assez dramatique ces dernières années. Mais aussi des questions de sécurité sont très importantes aussi. Kenya se trouve au milieu d'une bataille avec Al-Shabaab, l'organisation terroriste. Les États-Unis ont un intérêt là aussi en aidant Kenya à faire face à ces menaces. Et symbolisé peut-être par le fait que le président des États-Unis a un père qui était Kenya.
Le fait que le président ne se rende pas dans le village natal de son père a été assez critiqué côté kenyan.
L'anticipation au Kenya est à un niveau où le président ne sera pas de satisfaire, si je peux dire, tout le monde.
Pour une visite de 48 heures, je crois. Il fallait faire des choix, et parfois des choix difficiles, j'en suis sûr.
Le président kenyan Uhuru Kenyatta a affirmé lors d'une conférence de presse que la question des droits des homosexuels était un non-sujet et qu'elle ne serait pas évoquée lors de ses visites.
Cette question est plutôt le produit des médias au Kenya. Côté américain, ce sujet en particulier n'a pas reçu beaucoup d'attention. Je crois que si la question, si quelqu'un pose la question au président, il répondra certainement en affirmant ses principes.
qui sont bien connus, principes de l'homme, qui sont assez connus, mais je ne crois pas que le président a l'intention de plonger dans ce sujet au cours de la visite. Sur ce point, je crois que Kenyatta et le président Obama sont d'accord.
C'était l'ancien ambassadeur américain au Kenya, Mark Bellamy.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Parlons du dossier nucléaire iranien. L'administration Obama essaie de convaincre les membres du Congrès et de la nécessité d'approuver l'accord signé entre l'Iran et les puissances mondiales mardi dernier à Vienne. Simultanément, Washington cherche à calmer les craintes de ses partenaires et alliés dans la région du Moyen-Orient. Pour une analyse, écoutons l'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, l'ambassadeur Herman Cohen.
Maintenant, ce n'est plus un problème diplomatique, c'est un problème intérieur aux États-Unis. Président Obama doit persuader les membres du Parlement parce que si le Parlement rejette cet accord, les États-Unis ne pourraient pas enlever les sanctions américaines. Donc, ce sera difficile de continuer l'accord. Donc, c'est une question de politique intérieure où il y a des gens qui veulent aller contre Obama et pour Israël. Et le problème d'Israël qui est contre l'Iran est très important aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent Israël jusqu'au bout. Israël est un pays très petit. Avec deux ou trois bombes, Israël peut disparaître. Donc c'est très important d'empêcher l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Le problème pour le Premier ministre Netanyahou, c'est que l'Iran, c'est un grand ennemi d'Israël.
Il y a aussi le fait, ambassadeur Cohen, que grâce à cet accord, l'Iran pourra bientôt avoir des dizaines de milliards de dollars à sa disposition qui, selon Israël, serviront à financer des groupes terroristes comme Hezbollah ou bien le Hamas.
Oui, mais ça, c'est un faux raisonnement parce que l'Iran, même avec des sanctions, a continué à financer Hezbollah et Hamas. Ils n'ont jamais cessé de faire ça. Ce que le peuple iranien désire, c'est de redémarrer leur économie et d'avoir de l'argent pour l'infrastructure, pour l'éducation, etc. Donc, je suis sûr que 99% de cet argent sera utilisé pour les fins intérieures.
Le 3 août prochain, le secrétaire d'État Kerry se rendra lui aussi au Moyen-Orient, mais surtout pour parler aux pays membres du Conseil de coopération du Golfe. Que peuvent vraiment faire les États-Unis pour rassurer la région?
C'est le même que pour Israël. Nous sommes toujours à leur côté avec des armes, avec des conseils, avec des militaires conseils, etc. Et j'ai constaté que l'Arabie saoudite et les autres pays du Golfe n'ont pas protesté comme Israël.
Oui, mais les États du Golfe et même l'Arabie saoudite, ils ont critiqué l'accord.
Oui, ils ont critiqué l'accord, mais ils ont fini par accepter.
Faudrait-il augmenter la coopération entre les États-Unis et ses pays alliés?
Oui, mais je crois qu'il y a plein de coopération maintenant. Tous ces pays, avec l'argent du pétrole, ont acheté beaucoup d'armes. Le grand problème au Moyen-Orient, ce n'est pas les États-Unis. Le grand problème, c'est les sunnis contre les chiites.
L'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et voilà, c'est tout pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La mise en onde était assurée par Georges Léonard Sagnot. À la présentation, c'était Nathalie Barge et Chérubin Dorcy.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.